sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom se partagent le marché des télécommunications et ne sont jamais à court d'arguments pour attirer de nouveaux clients. Mais quel opérateur mobile et quel fournisseur d'accès à Internet apporte le plus de satisfaction à ses abonnés en 2022? C'est l'enquête de la semaine. Nos logements regorgent de poussière qui nous expose à des composés toxiques pour la santé. Mais d'où proviennent ces polluants domestiques et comment s'en débarrasser? C'est la question de la semaine. Issue de l'os du jarret, l'os à moelle est un plat d'une grande finesse gastronomique très apprécié des palais les plus délicats. Mais comment le préparer? Comment utiliser la moelle en cuisine? Eh bien ça, c'est la recette de la semaine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien, votre magazine conso du samedi matin sur RTL. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je m'en réjouis ainsi que toute l'équipe de cette émission et vous remercie pour votre fidélité. Amine Meslem, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de janvier est en kiosque. On va donc parler aujourd'hui téléphonie. Quel opérateur de téléphonie mobile a le réseau le plus performant et la meilleure qualité pour les appels téléphoniques?
Alors, d'après les abonnés que nous avons interrogés, nous avons fait une enquête sur plus de 2000 abonnés des opérateurs fixes et mobiles.
Ouais.
C'est Sosh qui est l'opérateur mobile qui offre la meilleure qualité pour les appels téléphoniques.
D'accord. Et celui qui a la moins bonne note?
C'est Red et SFR, en fait. Ce sont les moins bien notés par notre panel.
Ah oui, alors qu'on peut dire qu'on est matraqué de publicité à leur sujet. Quels opérateurs ont la meilleure et la moins bonne connexion à l'Internet mobile, Amine?
Alors là encore, c'est Sosh et Orange qui arrivent en tête pour la qualité de leur connexion à Internet mobile. Free et Bouygues Télécom sont un peu moins appréciés sur ce critère, mais les plus critiqués, là encore, on retrouve SFR et Red.
D'accord.
Que ce soit pour la qualité ou la disponibilité du réseau.
Quels opérateurs font le plus de promos alléchantes lors de la souscription à l'abonnement? Parce que c'est vrai que c'est ça qui nous fait aussi, à un moment donné, pencher vers l'un ou vers l'autre, Amine.
Oui, c'est vrai. Alors la guerre des prix est quand même moins forte qu'il y a quelques années, mais elle n'est pas terminée. Donc on voit toujours effectivement beaucoup de promotions. Bah, là, par exemple, il y avait 30% des clients des opérateurs mobiles qu'on a interrogés qui avaient bénéficié d'une promotion lors de leur souscription. Mmh. Et c'est surtout le cas en fait chez Orange et SFR.
Ok, d'accord. Et justement, pour quel motif certains opérateurs modifient-ils l'offre souscrite en cours d'abonnement pour quelques euros supplémentaires? Lesquels en abusent?
Effectivement, malheureusement, il y a des opérateurs qui augmentent le prix de leur forfait en cours d'abonnement et en général, ils le font en prétextant un enrichissement de leur offre,
ouais,
comme un volume de données plus important ou l'ajout d'un nouveau service, par exemple.
Ok.
Enfin voilà, il y a quasiment 31% là, des clients des opérateurs mobiles qui disent avoir subi ces modifications d'offre au cours des 12 mois qui précédaient l'enquête.
Et on va encore donner des noms? Quels sont ceux qui en abusent?
Vous n'allez pas être étonné si je vous dis Red by SFR, SFR, mmh, et puis Bouygues aussi derrière.
Mais on a des recours, au fait, si on conteste cette modification forcée de l'offre initiale?
Déjà, les opérateurs, ils sont tenus d'informer les personnes concernées au moins un mois avant la modification du contrat. Mais le problème, en fait, c'est qu'il arrive que des abonnés n'en prennent pas connaissance parce que l'information était dans un mail, ouais, qui était classé dans leur courrier indésirable, ou alors parce qu'ils l'ont supprimé en croyant tout bêtement qu'il s'agissait d'un message publicitaire.
C'est vrai.
Et la plupart du temps, les opérateurs laissent quand même la possibilité de refuser le changement, mais le souci, c'est qu'ils contraignent les utilisateurs à signaler le refus sur leur espace client, dans un délai. Donc, quand les opérateurs ne permettent pas de conserver l'offre initiale, les abonnés ont toujours le droit de résilier sans frais dans les 4 mois qui suivent la modification du contrat.
Et le service client, c'est quand même quelque chose, je trouve, d'important. On peut citer des noms aussi? Quels opérateurs ont le meilleur et le plus mauvais service client? Dis donc, aujourd'hui, vous distribuez les bons et les mauvais points quand même, Amine. Vous n'êtes pas dans un rôle très facile, hein?
Non, j'ai un peu l'impression d'être un professeur, un ancien professeur.
Mais je vois ça, mais vous avez mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs, donc évidemment on est obligé de vous demander. Alors,
Les abonnés les plus satisfaits par leur service client, ce sont ceux d'Orange, de Sosh et de Bouygues Télécom. Et les moins contents, je pense que vous n'allez pas être étonnés, on va retrouver Red et SFR. Il faut dire que 27% des clients de SFR nous ont dit avoir patienté plus de 10 minutes avant d'avoir quelqu'un au bout du fil.
Sosh, dis donc, ils s'en sortent vachement bien, hein.
Il faut dire que ils ont l'avantage de, d'avoir des prix assez avantageux et en même temps ils s'appuient sur le réseau d'Orange parce que c'est la marque d'Orange en fait, Poche. Et Orange est classé régulièrement par l'autorité de régulation des télécoms comme ayant le réseau le plus performant.
Est-ce qu'on peut négocier aussi avec des opérateurs lors d'un changement de portable en cours d'abonnement? Quels sont les opérateurs qui sont les plus aisés, les plus ouverts à la communication à ce sujet?
Tous les opérateurs proposent des offres pour changer de mobile. Donc il n'y en a pas vraiment un plus que l'autre. En fait, ça va dépendre un petit peu s'ils ont besoin ou pas de recruter des abonnés à un moment donné. En tout cas, s'il y a un conseil à donner, c'est que pour obtenir les meilleurs prix, il est préférable d'attendre la fin de la période d'engagement si on en a une.
Oui, d'accord. Parce que quoi, ça nous rend plus forts, quoi, dans la négociation.
C'est ça, exactement.
Ouais, je comprends. C'est facile de résilier son abonnement chez un opérateur?
Dans la plupart des cas, oui, ça se passe relativement sans problème. En particulier chez Orange et Free Mobile, mais il y a quand même une partie non négligeable des anciens clients de SFR et de Bouygues qui nous ont dit avoir eu des difficultés lors de la résiliation. En général, c'est plutôt la capacité de joindre facilement le service client à ce moment-là, ou alors la continuation de la facturation après le départ.
Ah oui, donc là, ce qui est quand même particulièrement problématique. Vers qui se tourner justement en cas de conflit avec son opérateur pour un refus de résiliation de contrat ou pour un souci de facturation?
La première chose à faire, en fait, c'est qu'il faut confirmer sa réclamation avec un courrier recommandé, avec accusé de réception ou alors une lettre recommandée électronique. Mmh. En l'absence de réponse ou si celle-ci ne vous satisfait pas, il faut saisir le service recours consommateur de l'opérateur parce que chaque opérateur dispose d'un service recours. Mmh. En général, d'ailleurs, les coordonnées sont indiquées sur leur site. Si le litige n'est toujours pas résolu au bout d'un mois, dans ce cas, on peut faire gratuitement appel à la médiatrice des communications électroniques dans un délai d'un an à compter de la réclamation. Son rôle est peu connu, mais pourtant, elle est reconnue par la quasi-totalité des opérateurs du marché, et notamment les quatre principaux opérateurs. Et on peut la saisir tout simplement en créant un dossier en ligne. Alors, il y a un site internet qui est mediation-telecom.org.
Ouais.
Donc voilà, il suffit de remplir un dossier sur ce site-là. Et si la demande est recevable, on en est informé dans les 3 semaines. Et à ce moment-là, la médiatrice s'engage à rendre son avis dans un délai maximum de 3 mois. D'après ces statistiques, 95% des propositions de solutions sont acceptées par les professionnels et les consommateurs.
Et dites-moi alors, pour finir et clore notre étude justement sur la téléphonie avant d'attaquer le sujet des box, quel opérateur a le meilleur rapport qualité-prix selon votre étude?
C'est Soch, hein, c'est vraiment la marque à bas prix d'Orange qui fait vraiment la course en tête.
Mais c'est vachement bien, oui c'est ça, parce que ce n'est pas une marque comme vous dites, c'est un peu le low cost de la téléphonie.
C'est la marque à bas prix d'Orange. Un peu comme Red, avec SFR. Et effectivement, en gros, c'est un peu la qualité de service d'Orange sans les coûts qui peuvent être parfois assez élevés.
Eh bien, on se retrouve dans un instant, Amine, parce que là, on a parlé de téléphonie, mais bien évidemment, on s'interroge aussi sur les box et ce sera avec vous dans la suite de Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Comment se débarrasser des polluants présents dans nos logements? C'est la question de la semaine. On va y répondre dans un instant avec Elisabeth Chenet. Comment cuisiner l'eau sa moelle? Ça, ce sera pour la partie cuisine avec Sonia Esgulian. Mais pour l'heure, on parle de nos abonnements aux box avec Amine Meslem, journaliste à 60 millions de consommateurs. Et oui, vous êtes un peu notre meilleur copain ce matin, Amine Meslem, parce que vous avez mené l'enquête justement pour 60 millions de consommateurs pour savoir quels sont les meilleurs fournisseurs mobiles et Internet. On a parlé donc de la téléphonie il y a un instant dans Nous Voilà Bien et vous nous avez vanté les mérites de Soch hein, qui ressort meilleur rapport qualité-prix dans votre étude. On va s'attaquer maintenant aux box, à Internet. Est-ce qu'il y a de grosses différences de prix d'un fournisseur d'accès Internet à un autre?
Si on regarde hors promotion, les tarifs vont de 23 à 47 euros par mois environ pour un accès à la fibre optique et de 17 à 40 euros à peu près pour un accès à DSL.
D'accord.
Et les prix peuvent même grimper à 60 euros si les forfaits incluent des bouquets aux chaînes payantes.
Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas pour les mêmes services, mais enfin, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, ça peut aller du simple au triple.
Voilà.
Le fournisseur d'accès à Internet le plus plébiscité, selon votre étude, pour la qualité de la connexion, le chargement le plus rapide des pages web et des vidéos, Des appels passés au téléphone reliés à la box, c'est lequel qui ressort?
Celui qui a été effectivement le mieux noté, c'est Free, qui est le fournisseur d'accès à Internet, qui a vraiment obtenu la meilleure note de satisfaction globale de la part des abonnés de notre panel.
Ouais.
Il est particulièrement apprécié pour la rapidité de sa connexion, avec un chargement effectivement plus rapide des pages web et des vidéos en streaming, mais aussi la qualité des appels passés depuis la box. Et après Free, il y a Orange, Soch et Bouygues Télécom est dans la moyenne, on va dire.
D'accord. Bon, alors si je vous demande les mauvaises notes.
Ce qui reste, c'est-à-dire effectivement les abonnés de SFR et de sa marque Red qui sont les plus mécontents de leur connexion Internet.
Oh là là, mais je suis mal lotie, vous ne pouvez pas savoir. Quand je vous écoute, je suis affolée. Quels sont les problèmes qui sont rencontrés par les utilisateurs alors?
La majorité des personnes interrogées a déjà observé occasionnellement une instabilité du débit de leur accès fixe à Internet. Mais ce sont quand même les souscripteurs de SFR qui sont les plus nombreux à constater fréquemment ce type de fluctuation. Il y a 30% de ces derniers qui connaissent régulièrement des coupures de leur accès. C'est un taux deux fois supérieur à la moyenne des personnes interrogées. En général, ces interruptions de service sont dues à des intempéries ou alors à des travaux qui sont réalisés sur le réseau.
Quand on a un problème, on contacte toujours le service client. Alors, lequel est le plus réactif et opérationnel?
C'est les hotlines de Bouygues Télécom et d'Orange qui, d'après leurs abonnés, sont les plus réactives. Alors, elles ont toutes les deux pris en charge en moins de 5 minutes une part significative de leurs clients. Ce sont les clients Orange et Free qui semblent être le plus satisfaits de leur expérience avec le service client.
Et bon, je ne vous demande pas les pires parce qu'on l'aura bien compris. Et
exactement.
Nos auditeurs aussi. Le raccordement à la fibre optique, c'est plus compliqué avec certains fournisseurs d'accès Internet? Parce que ça change la donne quand même, la fibre optique.
Oui, on pourrait penser que effectivement, s'abonner à la fibre optique, vu le nombre d'aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population qui est raccordée à la fibre optique. Donc on pourrait penser que c'est devenu une formalité comme un abonnement à EDF ou voilà, mais non, en fait, c'est pas le cas. Il y a 46% des abonnés interrogés qui ont dû patienter plus d'une semaine avant d'avoir leur accès activé. Oui, il y a même un quart des clients d'Orange qui ont attendu plus de deux semaines. Ça s'explique surtout parce que l'opérateur historique possède le réseau le plus étendu et des fois il est dans certains secteurs et des fois le seul présent. Et en plus, ce sont des fois des zones où le raccordement est plus complexe à effectuer, donc ça peut s'expliquer aussi par ça. Voilà, surtout que c'est vrai que ces derniers mois, avec la crise sanitaire, le développement du télétravail, ça, les demandes de connexion à la fibre ont vraiment explosé. Il y a plus d'un million d'abonnements supplémentaires qui ont été souscrits au cours du seul deuxième trimestre 2021. Tout ceci peut expliquer cela. Mais ceci dit, une fois passé ce délai, en général, l'installation de la fibre, elle se passe en général plutôt bien. Donc là, à l'inverse de ce que je disais sur les délais, c'est les plus satisfaits, c'est plutôt ceux d'Orange, et les moins contents, ceux de SFR.
Okay.
Les insatisfaits, ils pointent toujours les problèmes des prestataires, en fait, qui sont chargés de la mise en service, parce que en général, ils n'utilisent pas les infrastructures existantes. Par exemple, des gaines, si vous avez déjà des gaines qui existaient pour faire passer des câbles, par exemple, certains n'arrivent pas à les faire passer, donc ils sont obligés de faire des gaines en plus. Ou alors, des fois, il y a des petits travaux qui sont effectués sans l'accord préalable du locataire ou du propriétaire, comme par exemple installer un boîtier de connexion à un endroit qui n'arrange pas l'abonné. Bon, voilà, c'est des petits tracas comme ça qui nous sont remontés suite au raccordement de la fibre optique.
Très bien, merci beaucoup Amine Meslem pour toutes ces informations. On retrouve l'ensemble donc de cette enquête dans 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. À bientôt Amine sur cette antenne, merci à vous.
Merci, au revoir.
La poussière, la poussière, la poussière est une sorcière. La poussière, la poussière, elle nous mène une vie.
On avait envie de vous mettre un petit Chantal Goya, Elisabeth Chenet.
Oui.
Voilà, c'est pas mal aussi. La poussière est une sorcière, Chantal Goya. Vous travaillez au magazine Que Choisir. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que le numéro de Que Choisir de janvier est en kiosque. Et on va s'intéresser aujourd'hui avec vous, Elisabeth, aux principaux polluants domestiques dans nos maisons. C'est la question de la semaine. Comment se débarrasser de ces polluants présents dans nos logements? Alors, quels sont-ils déjà et d'où proviennent-ils, Elisabeth?
On a deux grandes catégories. D'une part, les polluants de l'air intérieur, ce sont des substances très volatiles. Là-dedans, on trouve le benzène, les particules fines, le formaldéhyde, qui sont tous cancérigènes. Et puis, d'autre part, on a les poussières. Alors là, ce sont des substances toxiques pour la santé, hein, celles que nous avons trouvées, mais qui sont dans les poussières parce qu'elles sont plus lourdes, en fait. Et dans cette catégorie, ben, on a des conservateurs qui sont hyper allergisants, très, très utilisés. Des phtalates, c'est-à-dire des plastifiants qui sont très nocifs aussi, des métaux lourds, des pesticides.
Mais en tout cas, ce que l'on comprend, c'est que les polluants sont légions dans nos logements. Est-ce que certains foyers sont contaminés par des substances pourtant qui sont interdites ? Je pense au plomb, par exemple.
Ah oui, alors écoutez, ça a été la surprise de nos analyses de poussière.
Ouais.
C'est qu'on trouve des métaux lourds, plomb, mercure, arsenic et des pesticides interdits. Ça vient de traitements du bois qui ont été faits par le passé. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a des substances qui sont interdites depuis 40 ans et qu'on retrouve encore dans les logements qui ont ou des parquets massifs anciens ou des boiseries anciennes. Ça peut être des belles peintures au plomb qui ont été recouvertes, mais qui vont quand même émettre des particules minuscules, etc.
Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi de toute urgence pour réduire cette exposition nocive ?
Quand on est dans les polluants de l'air intérieur, je dirais, c'est assez simple, hein, parce que vous avez les produits d'entretien. Nous, on dit, vous les limitez au maximum, et puis vous choisissez des produits d'entretien qui n'ont pas de composés toxiques, voilà.
Ouais.
Les désodorisants, évidemment, éviter les bougies, les parfums d'intérieur, etc. Limiter au maximum tous ces produits qu'on introduit, qui ne sont pas forcément très utiles. Et puis, quand on est dans les polluants des poussières, là, c'est quand même du lourd, avec notamment ces traitements anciens, ces pesticides interdits, etc., ces phtalates. Alors là, c'est pas des travaux lourds, c'est du nettoyage très, très régulier. C'est vraiment de passer l'aspirateur avec un filtre, ce qu'on appelle les filtres EPA, hein, qui piègent bien les substances les plus fines. Et puis ensuite, sur les sols lisses, passer la serpillière ou une microfibre humide, ce qui permet d'éliminer la poussière et d'enlever celle qui a pu se redéposer après le passage de l'aspirateur. Et surtout, surtout, alors, il faut éviter le plumeau, la balayette, le balai, parce que tous ces accessoires, ben évidemment, ça vous remet la poussière en suspension et vous la respirez à plein poumon.
Vous parliez des parfums d'intérieur et des désodorisants. Moi, je pense à ceux qui nous écoutent et dont je fais partie, hein, j'en conviens. Allumer une bougie, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire systématiquement quand on rentre le soir. C'est plutôt agréable. Ça fait vraiment partie des choses à proscrire.
Les bougies, c'est très difficile parce que nous avons dans nos tests trouvé des bougies qui étaient très peu émissives et d'autres qui étaient extrêmement émissives. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la loterie. Et nous, tant qu'on ne peut pas identifier à l'achat les produits qui n'émettent pas de substances nocives pour la santé, on préfère déconseiller les produits.
On va se retrouver dans un instant, parce qu'on a des questions concrètes à vous poser pour essayer, évidemment, d'alléger la pollution dans nos intérieurs, car c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Ce sera dans un instant, dans la suite de Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Comme. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
La suite de Nous voilà bien, c'est votre magazine de consommation du samedi matin. Nous voilà bien, non seulement vous pouvez consommer d'une façon plus avertie, mais vous pouvez également prendre soin de votre santé ce matin avec les conseils de notre invitée Elisabeth Chenet de QFC Que Choisir. Elisabeth Chenet, merci d'être avec nous. La question de la semaine, c'est comment se débarrasser des polluants présents dans nos logements. Alors, je vais vous poser des questions concrètes. Est-ce que fumer à l'intérieur en aérant ensuite pollue quand même ma maison ?
Ah oui, quand même, parce que là, c'est très net. Hein. Dans tous les logements de fumeurs, nous avons retrouvé la signature du tabac, hein, avec une présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Enfin, voilà. Il vaut mieux aérer, bien évidemment, mais fumer à l'intérieur, vraiment à éviter.
La vapeur des cigarettes électroniques, ça pollue aussi, ça ?
Ce sont d'autres substances, mais évidemment, ça émet aussi.
Mon parquet massif, vous parliez du bois, là, tout à l'heure, il contient des composés toxiques, mais comment je peux le dépolluer, justement, ce parquet ?
Nous, ce qu'on conseille vraiment, là, c'est de vraiment aspirer le parquet très, très régulièrement, en particulier si on a de jeunes enfants qui jouent par terre.
Les tapis et les moquettes qu'on a chez soi, est-ce qu'ils sont à proscrire ?
Ce qui est incontestable, c'est qu'ils stockent la poussière dans leurs fibres.
Oui.
Alors, surtout si vous avez de jeunes enfants, il vaut mieux qu'ils jouent sur les sols lisses. Si vous les laissez sur des tapis, sur des moquettes, ils risquent de respirer, d'ingérer toutes les substances toxiques dont on a parlé.
Ok. Vous parliez des allergies, justement. Quelles sont-elles ?
On sait que la population est de plus en plus allergique, que les allergiques sont de plus en plus nombreux. Et on sait donc qu'il faut limiter au maximum les substances qui peuvent déclencher des allergies. Et on a notamment les conservateurs avec l'amide, si vous voulez, qui a déclenché une épidémie d'allergies en Europe, en France, dans le monde entier, voilà. Et qui se trouve dans un tas de produits. Donc, de plus en plus de fabricants remplacent cette molécule par une qui n'est pas problématique. Donc, nous, on dit vraiment, lisez l'arrière de tous les produits d'emballage, de tous les emballages que vous achetez. Parce que mythe, c'est indiqué, c'est une obligation. Voilà, donc il faut les éviter.
Est-ce que garder ses chaussures à l'intérieur, c'est nocif ?
Sur vos semelles, vous allez avoir des polluants de l'extérieur, parfois des pesticides du jardin, si vous avez un jardin. Donc, nous, vraiment, ce qu'on conseille, c'est de les laisser dans l'entrée ou encore mieux dans le garage, enfin, selon votre habitation, quoi. Mais ne pas marcher chez soi avec ses chaussures qui viennent de l'extérieur.
Si on habite près d'une route à forte circulation, comment est-ce que l'on peut se protéger de la pollution des gaz d'échappement?
Il faut de toute façon aérer tous les jours, mais éviter d'aérer aux heures de pointe. Parce que de toute façon, où qu'on soit, si vous voulez, il faut aérer parce que la pollution de l'air intérieur, sinon elle se concentre et voilà, vous respirez un air de plus en plus vicié. Donc, aérer, c'est important, mais évitez évidemment les heures de pointe quand vous
Voilà. Qu'est-ce qu'on néglige en fait de nettoyer régulièrement et qui pollue nos habitations ?
Eh bien, vous savez, dans les habitations, on a des ventilations avec des extractions d'air, des entrées d'air ou des grilles dans l'habitat plus ancien. Et alors ça, il arrive que ce soit bouché parce qu'on trouve que ça fait un peu d'air ou bien qu'on ne pense pas du tout à les entretenir. Et c'est vraiment des choses qu'il faut faire parce que c'est indispensable pour limiter la pollution intérieure. Si vous voulez, si vous avez des bouches d'extraction de la VMC et qu'elles sont encrassées, finalement, ça ne va pas faire circuler un air neuf et pas pollué.
Évidemment.
Donc c'est très important.
Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth Chenet, d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Et je rappelle que l'on vous retrouve dans le magazine QFC Que Choisir. Passez un très bon samedi. Merci à vous.
Merci. Au revoir. 'Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone.
Sonia Esguillon, sous vos applaudissements.
Bonjour Flavie.
Comment allez-vous Sonia? Merci d'être avec nous.
Ça décoiffe, tout va bien.
Ça décoiffe. Moi j'adore votre page Instagram gourmande dans laquelle vous parlez régulièrement d'ailleurs de notre émission. Merci pour votre fidélité. Et vous avez un nouveau livre, encore un nouveau bébé.
Voilà.
L'eau samoile, 10 façons de le préparer aux éditions de L'Épure. Dites-moi justement, il vient d'où cette eau samoile?
En fait, la bestiole, en général, c'est le bœuf ou le veau. Évidemment, avoir aussi de l'os de porc, ça, en général, on s'en sert beaucoup pour faire des jus ou des fonds. Mais c'est souvent le tibia du bœuf ou du veau.
En fait, la moelle comestible, c'est de la moelle osseuse.
Ah oui, surtout.
C'est pas la moelle épinière.
Des fois, ils me regardent effrayés en me disant « Mon Dieu, vous mangez de la moelle », mais on explique que c'est pas de la moelle épinière, c'est de la moelle osseuse.
D'accord. Il y a des gens qui sont affolés par l'idée de manger de la moelle. Il y a des gens qui n'aiment pas alors qu'ils n'ont jamais goûter. Comment est-ce que vous pourriez leur définir le goût? Parce que je disais en début d'émission, ça touche parfois les palais les plus délicats. C'est très singulier la moelle, tant dans la texture que dans le goût.
Oui. Franchement, moi je pense que c'est quand même quelque chose de délicat. Je peux comprendre que certains produits peuvent un petit peu déstabiliser certains palais, mais là, la moelle, la texture est assez tendre. On va dire qu'il y a vraiment des notes assez noisetées.
Je dirais
que le plus simple, en fait, pour commencer, à mon avis, avec la moelle, c'est de faire cuire la moelle dans un bouillon, de l'extraire du bouillon quand c'est un petit peu chaud ou tiède, de la sortir donc de l'os et de la déposer sur du pain grillé avec un tout petit peu de fleur de sel. Franchement, c'est une jolie découverte et la texture n'est pas du tout déstabilisante ou agressive.
Oui, je suis d'accord. Il faut l'essayer, pour l'adopter. De toute façon, il faut tout essayer. On peut pas dire j'aime ou j'aime pas. Il faut tout essayer et après, on peut effectivement s'exprimer. Mais c'est marrant parce que ça n'a pas toujours une réputation très facile, l'eau samoile, alors que c'est effectivement un plat assez surprenant et délicat. Le bouillon à l'eau, c'est un plat vieux qui est vieux comme mes robes.
Exactement. En fait, il y a plein de dictons. C'est bois ton bouillon et n'oublie pas de sucer l'os à moelle pour ne pas tomber malade en hiver. Mais c'est vrai. Alors après, aujourd'hui, il faut savoir que l'os à moelle, c'est un trésor pour la santé. C'est riche en collagène, en minéraux, alors donc les calcium, magnésium, phosphore, etc. C'est un bonheur. D'ailleurs, les hommes préhistoriques commençaient déjà par casser les os pour récupérer la moelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moelle, c'est aussi très très gras. Donc c'est vraiment riche en calories, donc on équilibre la chose. C'est-à-dire qu'on sait que c'est bon pour la santé, mais on n'en mange pas des quantités phénoménales. Et d'ailleurs, comme c'est très riche, on est très vite rassasié. Je pense que si on mange une tartine avec une belle moelle, bon, on va pas en manger 5.
On va se retrouver dans un instant, car vous allez nous expliquer justement comment on la cuisine, cette moelle. Et ce sera évidemment dans nos Voilà bien, on ouvre nos papilles.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien qui se poursuit de façon gourmande. Si vous ne connaissez pas l'os à moelle et si vous n'êtes pas contre la viande, eh bien il va falloir le tester ce week-end car c'est assez particulier et délicieux et on en parle avec Sonia Esguignan. Sonia Esguignan, merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière et je conseille votre nouveau livre « L'os à moelle, 10 façons de le préparer ». Je disais que c'était particulier, l'os à moelle, parce qu'évidemment, ça n'est pas quelque chose que l'on mange tous les jours. Il fut un temps, on en parlait il y a un instant en antenne, c'était ce que vous appelez une petite courtoisie de la part du boucher.
C'est-à-dire que le boucher offrait à ses bonnes clientes un ou deux os à moelle. Je trouve que c'était très délicat. Aujourd'hui, on n'a plus cette petite justement courtoisie, parce qu'on les achète, les os à moelle. Et d'ailleurs, c'est souvent difficile d'en avoir parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui demandent de l'os à moelle pour leur pot-au-feu, pour différentes préparations. Donc, quand on va chez le boucher, moi, je conseille de demander toujours un ou deux os à moelle et de les congeler parce que ça se congèle super bien. Et quand on en a besoin, on les sort au fur et à mesure.
Vous parliez du pot-au-feu. Alors, allons-y. Concrètement, quelle viande peut-il accompagner le mieux ?
On est d'accord que le pot-au-feu, on le fait traditionnellement avec de la viande de bœuf, mais évidemment, on peut le faire avec différents morceaux de veau. Dans la région lyonnaise, par exemple, on fait aussi des pot-au-feu avec une poularde. Donc la moelle, il faut vraiment se dire que ça peut accompagner tout un tas de choses. Et ça peut même accompagner des légumes. Je reviens à notre petite tradition lyonnaise, mais on a un gratin de cardon à Lyon. Donc le cardon qui ressemble donc à une blette, qui a un goût vraiment très prononcé d'artichaut. On va couper les tiges de ces cardons en toutes petites sections. On va les faire pré-cuire et ensuite, on va mettre ça dans un grand plat avec la moelle qu'on aura fait pré-cuire, qu'on va sortir de l'os, qu'on va couper en petits tronçons et on va gratiner ça au four avec un peu de fromage. Franchement, c'est hyper bon.
Ça peut accompagner des légumes aussi ?
Oui, alors par exemple, la soupe paysanne, vous savez, quand on fait cette petite soupe géniale avec les petits cubes de légumes, essayez avec un os à moelle. Ça change tout, c'est-à-dire que la moelle, non seulement ça va apporter un peu de gras, de tout ce qu'on disait de bienfait au niveau des minéraux, etc., mais surtout, ça va apporter un goût légèrement justement noisté, hein, ce goût très particulier. Donc la moelle, c'est vraiment top.
Et dans les sauces ?
Petite astuce, parce que souvent, il faut sortir la moelle de l'os. Donc, deux options. Soit on fait un tout petit peu poché, c'est-à-dire on plonge la moelle avec son os dans une casserole, on fait cuire une dizaine de minutes, ça va à peine cuire la moelle et ça va nous permettre de la sortir. Mais si on veut vraiment de la moelle crue pour faire, par exemple, revenir des petites échalotes, etc., c'est délicieux, c'est-à-dire que ça remplace du beurre ou une autre matière grasse, en fait, on va plonger les os à moelle dans un saladier avec des glaçons. La moelle va se rétracter un petit peu et avec le pouce, on va donc pousser très fort et ça va permettre à la moelle de sortir. Les sauces, on peut en faire de toute nature. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une sauce de grand classique de la gastronomie française. C'est une sauce bordelaise qui fonctionne aussi bien avec des viandes qu'avec des poissons. Super simple à faire. on prend un très bon vin rouge, à peu près 20 centilitres. On va faire réduire ce vin rouge, c'est-à-dire qu'on le met sur le feu, on laisse cuire tout doucement et on attend que ça réduise à peu près des 2/3. Ensuite, on va ajouter des petites échalotes hachées très finement, un petit peu de thym, un peu de laurier. On va rajouter du fond de veau. Alors ça, généralement, on ne le fait pas maison, donc on a des petites préparations toutes prêtes. Et on laisse cette sauce réduire un petit peu pour devenir très onctueuse. Et juste à la fin, au moment de servir, on va ajouter des petits dés de moelle qui ont été cuites, pochées dans un bouillon. Franchement, c'est absolument délicieux. On nappe avec cette sauce une pièce de viande qu'on aura fait griller ou alors un poisson qu'on aura fait pocher ou cuire à la vapeur.
Comment est-ce qu'on empêche la moelle de sortir de l'os, Sonia ?
Alors là, on a une technique toute simple. On va éplucher une carotte, on va la couper en toutes petites rondelles, on va dire de 2 mm d'épaisseur, et on va mettre une rondelle de chaque côté de l'os. Va permettre en fait d'obturer. Là, on prend une ficelle, on ficelle ça un petit peu comme un joli paquet. En plus, aujourd'hui, on trouve sur les marchés des carottes de toutes les couleurs, donc ça fait des très jolis petits panels, des petits assemblages de couleurs à mettre dans le pot-au-feu. Et non seulement on garde toute la moelle, mais en plus, on va parfumer le pot-au-feu avec plein d'eau sa moelle, parce que du coup, on peut en mettre facilement un par personne.
Et en plus, c'est très joli. Allez, une recette pour la route. Une.
Alors, j'en ai une que j'adore parce qu'elle est hyper jolie en présentation. Je me suis inspirée des petites tourtes à la moelle anglaises. Bon, alors, ça s'appelle les pies, mais j'ai un accent pourri.
Pie à la moelle. Alors.
Donc, voilà, je ne sais même pas comment on dit moelle en anglais. Donc, je ne vais pas me la péter. Je raconte ma petite tourte. En fait, ce que j'aime, c'est, vous le savez, j'adore l'anti-gaspi. Oui. On a fait un pot-au-feu. Il nous reste plein de viande. Il reste du jarret. Il reste différentes viandes que je coupe en petits morceaux. Il me reste un petit peu de légumes. Pareil, je coupe un petit morceau. J'ai évidemment du bouillon de pot-au-feu. Et je vais rajouter un petit peu d'herbes aromatiques. Alors, soit du céleri ou de la ciboulette, ce que vous voulez. Je vais garnir avec cette viande, ce reste de viande, ce reste de légumes, des petits contenants. Alors, je ne sais pas si vous avez des petits ramequins, des petites choses, parce qu'on va faire une tourte individuelle. Il faut qu'on puisse mettre un petit peu de cette préparation, plus un os. Donc, il faut quand même un plat quand même assez grand. Je mets tout ça dans mon petit ramequin. J'ajoute du bouillon que j'ai fait réduire, mais que j'ai bien mis, bien chaud. Et par-dessus, vous imaginez mes restes de pot-au-feu avec les légumes. L'os à moelle cru, très important, pas celui qui a déjà cuit dans le bouillon, un os à moelle cru qu'on dépose au milieu de ce plat. Et là, je recouvre de pâte, généralement de la pâte brisée, et on fait un petit trou pour laisser ressortir l'os à moelle. C'est très joli en présentation. On va mettre au four, mais alors, petite astuce, une fois que j'ai bien badigeonné la pâte de jaune d'œuf battu, j'entoure de papier aluminium mon os à moelle, parce que sinon il va trop cuire. Je fais une première cuisson 10 minutes à 200 degrés, je retire le papier aluminium des os à moelle, je cuis à nouveau 200 degrés, et là, franchement, vous avez une super jolie tourte à l'anglaise, avec à l'intérieur donc le reste de pot-au-feu. Vous dégustez d'abord la moelle et ensuite vous cassez la croûte et vous découvrez l'intérieur. Franchement, c'est tout simple, c'est fait avec des restes. Ça, on jette, c'est le type de plat que j'adore.
L'os à moelle, 10 façons de le préparer. Voilà, c'est votre nouveau livre. Et il y a encore d'autres recettes qui nous donnent envie donc de découvrir l'os à moelle. C'est aux éditions de L'Épure. Sonia Esguignan, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir donné envie, encore une fois, de nous régaler ce week-end. Je vous embrasse et à bientôt dans Nous Voilà Bien, Sonia.
À bientôt, bonne cuisine.
Merci. Nous voilà bien, touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés ce matin. L'émission, vous la retrouvez en podcast sur l'appli RTL ainsi que sur tous les sites partenaires et les recettes quant à elles. Elles mijotent sur RTL.fr. Moi, je vous retrouve dès lundi 20h avec Jour J, le magazine qui fait revivre les grands événements qui ont marqué notre mémoire collective. Et nous, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien avec enthousiasme. Voilà, juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Passez un très bon week-end à l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.